Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis content de me retrouver devant vous. Et puis, c'est une grâce que le Seigneur me donne au travers de notre église locale de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alors, cet après-midi, nous poursuivrons dans 1 Pierre 1 et les versets 13 à 25. Alors, mais tout d'abord, nous allons commencer par le verset 10, alors inclusivement 10 à 25. Alors, je vous prierai de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Alors, je vous prie de vous asseoir. Alors, pour ceux qui se souviennent, la dernière fois que j'étais ici, on a vu la première partie du chapitre, là où Pierre se présente, Pierre fait ses salutations. Et puis, nous nous étions arrêtés au verset 9. Mais l'encouragement se poursuit jusqu'au verset 12. Alors, j'ai donc inclus dans mon message les quatre derniers versets dans ma prédication d'aujourd'hui, même si l'essence de mon message va être versets 13 à 25. Alors, je diviserai mon message en deux parties. Premièrement, Je vais résumer brièvement les premiers versets du chapitre et je conclurai l'encouragement de Pierre en m'attardant sur les versets 10 à 13. Et dans la deuxième partie, nous verrons l'obéissance demandée des enfants de Dieu. Alors, pour résumer, Pierre encourage les chrétiens qui vivent dans toutes sortes de tribulations normales de la vie chrétienne de se rappeler les vérités fondamentales. Nous avons été régénérés par le Père de miséricorde afin de posséder un héritage incorruptible. Sur la terre, non, dans les cieux, qui ne peut pas nous être enlevé, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nous sommes sauvés par la foi en Dieu, cette foi-là qu'il nous est donnée par Dieu et qu'il nous garde pour le jour de son retour. Nous avons donc la certitude qu'un jour, nous allons posséder ce trésor. Nous sommes dans le temps présent attristés par certaines épreuves, c'est vrai, mais l'apôtre élève notre regard. Il veut que notre attention soit sur celui en qui nous croyons. Petit ajustement, la taille. Alors, celui que nous n'avons jamais vu, mais en qui nous avons mis toute notre espérance, dans la vie présente, mais surtout pour celle qui est à venir. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut dire, comme Paul, que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Notre foi, plus précieuse que l'or, est épurée par toutes sortes d'épreuves que le Seigneur place sur notre route. Il ne veut pas que notre foi soit chambranlante, mais il désire une foi forte, une foi enracinée dans une confiance en lui, en sa personne et en sa parole. C'est donc pour cette raison qu'il envoie certaines épreuves qu'il a décrétées d'avance pour la perfection de notre foi. Et malgré ce qui nous arrive, nos cœurs, contre toute attente, sont remplis de joie. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune chrétien, il faisait quelques mois que j'étais converti, quelqu'un venait à l'église, et puis, mais il n'était pas croyant. Et puis, sur le retour vers la maison, en marchant, on parlait des choses, et moi, j'essayais de le convaincre à quel point que le Seigneur avait fait des choses glorieuses dans ma vie. Mais je me souviens, j'ai été chez lui, et puis lui me parlait de toutes sortes de religions orientales. Et puis, ça m'avait déstabilisé parce que c'était les tout premiers pas de ma foi, dans la foi chrétienne. Et j'étais vraiment déstabilisé. Mais... Oh, on est loin d'être rendu là aujourd'hui, mais 12 ans plus tard, c'est encore lui qui préserve notre foi. C'était lui qui la préservait à ce moment-là, quand il y avait des petits arguments, mais c'est encore lui qui la maintient après tant d'années. Et il maintient une foi, pas juste une foi dans la véracité de sa parole, comme c'était le cas à l'époque, mais dans aussi toutes sortes de circonstances qui peuvent arriver dans notre vie, des circonstances, des imprévus. Toutes les promesses de l'Écriture sont pour nous et nos enfants. Le Seigneur honorera ses promesses, celui qui nous a appelés est fidèle. Pierre poursuit dans son encouragement au verset 10 en disant que les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du salut et de cette grâce qui ne leur était pas encore réservée à eux du temps qu'ils étaient sur la terre. Ils espéraient dans ce Christ, mais qu'ils voyaient comme au travers d'un voile. Ce texte met en lumière trois vérités fondamentales de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Premièrement, l'Esprit qui a inspiré les prophètes dans l'Ancien Testament est désigné comme l'Esprit du Christ ou l'Esprit du Messie. Pierre soutient que ces prophètes étaient déjà sous l'influence de l'esprit du Messie à venir et que leur prédiction annonçait explicitement sa venue future. Deuxièmement, les prophètes n'étaient pas des simples instruments passifs transmettant des messages divins, mais ils étaient au contraire vraiment actifs. Ce sont vraiment les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament. Dieu s'est servi d'eux, oui, d'eux, mais il n'est pas passé malgré eux ou par-dessus eux. Il a inspiré les Écritures, mais c'est un travail conjoint entre ces prophètes et l'Esprit de Dieu. Et même si ce sont les prophètes qui ont écrit ces textes, ils cherchaient quand même, eux, le texte nous dit, activement à comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu leur révélait. Et troisièmement, Pierre affirme que les prophètes avaient annoncé non seulement les souffrances du Christ, mais aussi sa glorification après ses épreuves. Cette vision s'accorde avec le témoignage de l'Évangile de Luc, où Jésus explique à ses disciples, le jour de la Pâque, que ces prophéties de l'Écriture faisaient référence à lui. On peut lire en Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Exactement, les souffrances et la glorification à venir de ces souffrances. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, ce passage met en lumière deux choses principales. Premièrement, que les Écritures depuis Moïse jusqu'aux prophètes convergeaient vers une seule personne, vers le Christ. En dévoilant peu à peu son identité messianique au travers de la révélation qu'on appelle progressive, en préparant le cœur de sa génération à la compréhension du mystère de sa passion, de sa résurrection et de son ascension dans la gloire éternelle. Et deuxièmement, que les textes des prophètes sont essentiels pour nous les chrétiens de toute génération, afin de manifester l'économie divine du salut, préparant chaque cœur maintenant dans les temps de la fin, à saisir la plénitude de la révélation accomplie par notre Sauveur. L'apôtre nous dit que nous sommes encore plus choyés que les prophètes de l'Ancienne Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, aussi grands soient-ils, n'ont pas vécu la manifestation de l'Esprit de Dieu sur son peuple, dans son peuple. L'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament venait sur les prophètes et sur les dirigeants nationaux. L'Esprit Saint était également, s'était manifesté dans le temple, dans le tabernacle au désert. Et Jésus, citant l'Ancien Testament, en Jean 7, 38 et 39, dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et plus loin, en Jean 14, 16 et 17, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. » Alors, il y a bien effectivement un avant et un après la mort du Christ. Je cite un commentateur. Comment alors le reste de l'Ancienne Alliance, le reste d'Israël, de l'Ancienne Alliance, est-il devenu et est-il resté fidèle à Yahvé? Il répond en disant, « Les croyants de l'Ancienne Alliance ont fait l'expérience de l'Esprit, bien qu'ils n'aient pas connu l'habitation de l'Esprit. Le Saint-Esprit était parmi eux, mais il n'était pas en eux. » dans le peuple. Et je continue une autre citation. Les croyants de l'ancienne alliance devenaient fidèles par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, qui, dans l'Ancien Testament, davantage décrite comme une circoncision du cœur, Jérémie 9, 25, que comme une nouvelle naissance d'en haut, comme on peut voir dans Jean 3, 3. Ils demeuraient fidèles non pas par la présence du Saint-Esprit en eux, mais parce qu'ils allaient au temple et dans lequel le Saint-Esprit était. De plus, l'Esprit était actif à travers les prophètes d'Israël. Alors, lorsque les prophètes proclamaient la parole de Dieu, l'Esprit instruisait et avertissait le peuple de Dieu. Néhémie 9, 20 et 30. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit donnait la vie et demeurait parmi le peuple en résidant dans le temple. Sous la nouvelle alliance, l'Esprit donne la vie et demeure dans le peuple de Dieu. Ils sont son temple. Fin de la citation. Alors, nous, dans cette nouvelle alliance, nous sommes donc très privilégiés, et c'est ce que Pierre dit dans sa lettre. Nous sommes le véritable temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Et nous sommes même plus privilégiés que les saints anges. Pierre n'explique pas particulièrement qu'est-ce qu'il entend par « dans lequel les anges désirent plonger leur regard », mais il est probable qu'il fait référence à l'intérêt ardent des anges à être témoins du déroulement du plan glorieux de Dieu dans le salut des élus et de notre finalité glorieuse dans sa gloire éternelle. Alors, comment des gens si tordus, si pervers, finiront main dans la main avec notre Sauveur, l'épouse du Christ? Même si les anges sont des êtres très glorieux, ils n'ont pas l'opportunité du salut que nous avons en Dieu par Jésus-Christ. Il nous a été fait le don de vivre ce salut, cette nouvelle naissance acquise par les souffrances de Christ dans l'espérance heureuse de la gloire de notre ressuscité. Mais quoi qu'il en soit, l'intention de Pierre n'en demeure pas moins de nous encourager, jusqu'au verset 13, c'est véritablement un encouragement, à nous qui n'avons pas vu le Seigneur manifesté dans la chair lors de son incarnation, qui n'avons pas vu tous les miracles qu'il a fait quand il était sur terre. Nous ne l'avons pas côtoyé pendant 40 jours après sa résurrection. Et nous ne l'avons pas vu monter au ciel, comme c'était le cas de Pierre. Que malgré tout ça, nous soyons fidèles et que nous demeurons fidèles en lui. Et que nous sommes les plus privilégiés de tous les croyants, de tous les siècles. Et même un privilège que les anges n'ont pas. Alors, c'est ce qui mène à mon deuxième point. L'obéissance demandée des enfants de Dieu. Alors, puisque nous avons été élus selon la préscience de Dieu, non pas parce qu'il a vu quelque chose en nous qui nous rendait irrésistibles à ses yeux, mais plutôt selon sa grande miséricorde, comme on voit plus tôt dans le passage, sa grande miséricorde à notre égard, nous, c'est nous qui avons été attirés à lui de façon irrésistible. Par sa grâce. C'est sa grâce qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et nous n'avons pas pu résister à ce salut si glorieux. Il a fait fléchir notre volonté. Sa grâce envers nous a abondé lorsque nous étions misérables et dignes d'être haïs. Il a déversé son amour sur nous par sa grâce. Il nous a offert le pardon de nos péchés et il continue de nous offrir cette grâce en pardonnant nos transgressions quotidiennes, mais aussi parce que nous jouissons de sa grâce dans toutes les bonnes choses de la vie. Alors, le résultat de ça, c'est que nous devrions et nous devons vivre nos vies à la gloire de son nom. Et l'apôtre Pierre nous appelle à cela. Il nous dit « Saignez les reins de votre entendement ». On sait bien que ce n'est pas une chose qui se fait instinctivement. Nous ne devenons pas chrétiens et hop, voilà, notre entendement est lié à celle du Seigneur. Trop facile, plus de questions à se poser, plus de difficultés dans ce domaine-là. On sait bien que c'est complètement utopique. Ce n'est pas la vérité. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, un brillant mathématicien britannique du nom de Alan Turing fut appelé à Bletchley Park, un centre secret du renseignement. Sa mission était presque impossible. Déchiffrer les codes ultra compliqués de la machine Enigma utilisée par l'armée allemande. Ces codes changeaient à tous les jours et avaient des milliards de combinaisons possibles, rendant leur décryptage incroyablement difficile et on pourrait quasiment dire impossible. Quoique Turing était un homme excessivement brillant dans son champ d'expertise, et que c'était pour cette raison-là aussi que l'armée l'avait contacté, l'avait engagé, l'intelligence seule n'était pas suffisante pour parvenir à décrypter les messages allemands. Il fallait surtout une discipline mentale, une concentration d'acier. Pendant des mois, il a travaillé sans relâche, accumulant les nuits blanches et les échecs. Ses collègues eux-mêmes doutaient que c'était possible. Pourtant, au lieu de baisser les bras, Turing resserra encore plus son focus sur sa tâche. Il avançait pas à pas, méthodiquement, en réfléchissant soigneusement à chaque décision, un peu comme un soldat qui ajuste sa ceinture avant d'aller au combat. Au final, grâce à cette détermination incroyable et à sa discipline d'esprit, Turing et son équipe réussirent à déchiffrer Enigma. Ce succès a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette victoire n'était pas due à un coup de chance. Elle venait d'une préparation minutieuse, d'une concentration maximale et d'une volonté de faire. De la même manière quand Pierre nous dit de ceindre les reins de notre entendement, c'est d'avoir une attitude similaire à celle d'Alan Turing envers notre marche chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, sans y penser. Ça demande de la discipline, du sérieux, une intention bien claire de garder nos yeux sur le Seigneur et sur ce qui lui plaît. On ne se dit pas « Ah, la sanctification, c'est la job du Saint-Esprit. » Ce n'est pas vraiment la mienne. Je peux mettre mes pieds sur le bureau puis laisser le Seigneur agir. Je vais attendre. Un jour, il va me délivrer de tel ou tel péché. 1 Thessaloniciens 4:3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est vrai que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, mais nous sommes aussi complètement responsables de notre sanctification. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. La sobriété de nos actions, qui est créée par la sanctification, est un prérequis pour avoir cette espérance. Comment pourrions-nous avoir une espérance sans une conscience pure devant notre Dieu? Comment pourrions-nous vivre dans une vie de débauche et avoir l'assurance de lui appartenir et cette assurance lors de son retour? C'est un peu ce que dit Paul aussi dans sa première lettre à Timothée, au verset 19. Il dit « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et plus loin, au chapitre 3 de la même épître, après avoir expliqué la nécessité pour les diacres de marcher droitement devant le Seigneur et d'avoir une vie d'obéissance, tout de suite après avoir dit ça, comment les diacres devaient vivre une vie irréprochable devant le Seigneur. Il écrit « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Il est évident qu'il est impossible d'avoir une grande assurance dans la foi dans notre Sauveur et d'avoir une bonne conscience devant Dieu sans une vie droite, une vie alignée à sa parole, à ses commandements. Une marche chrétienne dans la sainteté exige une nouveauté de vie dans le Seigneur. N'ayez pas une vie de débauche, de convoitise, comme c'était le cas des ignorants. Et le cas de vous, quand vous étiez ignorant, Pierre va dire. Quand on ne connaissait pas Christ, lorsque vous n'étiez pas en communion avec lui, mais plutôt, il dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lors de son retour. Ce n'est pas seulement de croire à des concepts théologiques, croire que nous sommes élus, que le Christ nous prendra avec lui dans son ciel lors de sa parousie. C'est vrai, c'est tout vrai ça. Mais il faut aussi que je m'efforce de le croire, puis c'est pas des vérités théologiques qu'on se dit, qu'on les croit et qu'on les redit, et qu'à la force de les redire, on finit par les croire. Pierre nous pousse à l'action. Il dit pas réciter certaines choses et à force de les dire, vous allez y croire. Il dit, ayez cette espérance. Et comment? Ne vous conformez pas à vos anciennes convoitises. OK, je sais ce que je ne dois pas faire, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints comme votre Dieu est saint. Et à ce moment-là, vous aurez cette pleine assurance dans vos consciences, cette sûre espérance dans la grâce qui nous sera offerte à son retour est liée à nos actions. Il est impossible d'avoir une entière espérance si nous vivons comme nous vivions autrefois. Notre conscience et l'Esprit de Dieu nous accusent, et avec raison, si nous vivons encore comme avant. Si nous vivons dans nos péchés comme ça l'était à l'époque, nous n'avons pas le droit d'avoir une espérance et nous ne pourrons même pas en avoir une. Il est impossible que notre espérance soit enracinée, soit forte, soit certaine et que le Seigneur soit même favorable envers nous. Comment pourrions-nous penser que le Seigneur sera favorable si notre marche n'est pas exemplaire devant Dieu? Oui, c'est par sa grâce, absolument. Mais Pierre, ce qu'il veut dire là, c'est on n'est pas sauvé par la grâce, mais soyez remplis d'espérance. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir une vie droite envers Dieu. Un chrétien qui vit dans le péché, c'est très déplorable. En plus d'attrister l'Esprit de Dieu qui habite en lui et qui l'a régénéré, il se fait du mal à lui-même et à tous ceux qui l'entourent. Le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance devait garder la pureté du temple, comme on le lit dans Nombre 20:20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. Le péché ne pouvait pas se trouver dans la maison de Dieu. La présence de Dieu et celle de l'impureté ne peuvent pas cohabiter. De la même manière, celui qui vit une vie impure souille le temple du Saint-Esprit qui est son corps. Et il corrompt la maison de Dieu, qui est le corps de Christ rassemblé en son nom. Si cette personne vit dans le péché et ne cherche pas à s'en détourner, elle doit être retranchée de la communauté. Dieu fait de passe-droit à personne. La sainteté demandée lors de l'Ancienne Alliance est la même qui est demandée sous la Nouvelle Alliance. Parce que celui qui nous a appelés est saint d'éternité en éternité. Et même nous, chrétiens, devrions avoir un standard encore plus élevé que le peuple d'Israël. parce que Dieu nous a fait devenir des sacrificateurs pour lui. Nous avons un ministère sacerdotal. Nous sommes devenus un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous ne nous tenons pas seulement dans le parvis extérieur de la maison de Dieu, comme c'était pour la plupart du peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Mais nous avons été propulsés dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Christ a déchiré le voile par sa mort rédemptrice et nous a donné le privilège d'un accès libre en sa présence. Aucun membre de la communauté de l'Ancienne Alliance n'a eu ce privilège-là, à part, à l'exception du souverain sacrificateur, une fois par année. Ne devrions-nous pas marcher devant lui avec crainte, avec une révérence envers ce Dieu si grand et si saint? Nous sommes appelés à être un témoignage de l'Évangile dans le monde pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Et le meilleur témoignage qu'il y a, mis à part la parole de Dieu, c'est une vie transformée par cette même parole-là. Une vie transformée, mais aussi une vie qui reste transformée et qui continue de se transformer, d'être transformée. Et comme dirait notre ancien premier ministre, qui continue de continuer à se transformer. Alors, Israël était aussi un témoignage pour les goïms, pour les païens, sous l'Ancienne Alliance, mais eux, ils n'étaient pas tous des sacrificateurs, comme nous, nous le sommes. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux, comme c'est le cas pour nous qui vivons dans les derniers jours. Dans les derniers jours où Yahweh a répandu son Esprit sur toute chair, sur tout son peuple. Nous n'avons pas d'excuse à vivre une vie d'immoralité. Vivre une vie comme celle que nous vivions auparavant, bien, c'est minimiser les souffrances de Christ. C'est amoindrir l'agonie qu'il a vécue dans son âme lorsqu'il était dans une angoisse terrible dans le jardin de Gethsémané et que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est dévaloriser les 6 heures d'agonie qu'a dû subir notre Sauveur sur cette croix pour nous sortir de cette misère-là. C'est-à-dire, c'est pas si grave que ça. Anyway, le Seigneur va me pardonner. Il a tout payé à la croix. C'est dévaloriser ce qui s'est passé. C'est banaliser l'abandon qu'il a dû subir de ses proches et de son Père bien-aimé. C'est galvauder sa résurrection et sa glorification. Et ceux qui persistent dans cette rébellion, dans cet amour pour le péché, ils finissent par renier le Christ. L'apôtre nous appelle à vivre comme des pèlerins sur cette terre avec une sainte crainte de Dieu. Et on le sait bien, cette crainte, ce n'est pas une peur du jugement de Dieu, de terminer en enfer pour l'éternité, comme il est réservé pour les incrédules. Mais c'est, le Seigneur dit dans sa parole, désolé, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, nous ne serons pas délaissés, on ne va pas perdre notre salut, mais il désire quand même que nous ayons cette crainte. Cette crainte qu'on demande de nous, d'avoir est plutôt une attitude de révérence, oui, profonde et respectueuse devant la majesté et la sainteté de notre Dieu. La sainte crainte de Dieu, ce n'est pas une peur qui nous paralyse ou une inquiétude qui nous écrase, mais c'est plutôt une attitude spirituelle, profonde, que l'Esprit Saint crée en nous. Ça nous fait réaliser à quel point Dieu est grand, puissant et saint. Et en même temps, ça nous fait prendre conscience que sans Christ, on est complètement indigne devant lui. Nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. Jean Calvin explique bien cela dans son ouvrage « L'institution chrétienne » quand il dit que plus on connaît vraiment Dieu, plus notre cœur devient humble et rempli de respect envers lui. Et nous voulons l'être de plus en plus, et je sais qu'ici, à l'Église de la Trinité, hommes et femmes tentent à l'être de plus en plus. Mais préservons cette crainte comme la prunelle de nos yeux. Ne laissons pas le diable s'infiltrer parmi nos rangs et s'aimer le trouble, la zizanie et toutes sortes d'impuretés. Soyons vigilants et luttons contre le péché. Si nous avions été rachetés par de l'or et de l'argent, bon, OK, je vous dirais, ce n'est pas si grave que ça. Mais le texte nous dit qu'on n'a pas été rachetés par de l'or et de l'argent. Nous avons été rachetés par un très grand prix, par le sang du Christ. Rappelons-nous que notre saint agneau, sans imperfection, sans péché, a été livré pour nous, lui juste pour des injustes, afin de nous amener au Père et d'être des vases d'honneur purs pour notre Dieu. Son sang précieux est la seule matière qui a pu nous sauver et qui pourra sauver tous ceux qui vont nous suivre dans la foi. En 1922, une découverte incroyable a fait le tour du monde. La tombe du pharaon Toutankhamon a été ouverte après être restée fermée pendant plus de 3000 ans. Parmi les trésors trouvés, les archéologues ont découvert quelque chose d'étonnant, des jarres contenant des graines très anciennes, du blé conservé précieusement pour accompagner le pharaon dans l'au-delà. Les scientifiques ont essayé de planter ces graines antiques avec l'espoir de faire revivre des plantes qui avaient disparu pendant des milliers d'années. Mais malgré tous leurs efforts, les graines sont restées stériles. Bien que conservées avec soin, ces semences s'étaient corrompues avec le temps. Elles avaient perdu leur pouvoir de donner la vie. Mais nous connaissons une semence qui ne perdra jamais ce pouvoir de donner la vie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la véritable semence éternelle qui donne une vie éternelle. Nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Notre petite histoire, en 2005, en Israël, des scientifiques ont fait germer une graine vieille de près de 2000 ans, découverte dans les ruines antiques de la forteresse de Masada. Ce palmier de date, surnommé Mathusalem, est à ce jour la plus ancienne semence connue ayant réussi à produire la vie. Mais aussi exceptionnelle que peut être une semence terrestre, avoir survécu autant d'années, elle finira quand même comme toutes les autres. Elle mourra parce qu'elle n'est pas incorruptible. Et c'est vrai pour tout ce qui se trouve dans le siècle présent. Tout passe, tout casse, tout lasse. Il y a seulement une chose qui dure dans ce monde et c'est la parole de notre Dieu. Elle traverse les siècles sans perdre sa capacité à transformer les cœurs, à sauver des âmes, à accorder la vie éternelle à quiconque la reçoit par la foi. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Nous avons été régénérés lorsque nous avons obéi à cette parole éternelle, mais obéir, c'est bien plus qu'une simple adhésion mentale. C'est une soumission sincère de tout notre être à la volonté révélée de Dieu. Cette grande vérité n'est pas seulement un concept abstrait de connaissance théologique qui nous suscite peut-être un plaisir intellectuel, mais c'est une réalité tangible qui se manifeste dans nos vies et qui se voit par nos actions. On peut se poser la question, cette semence éternelle a-t-elle vraiment pris racine dans mon cœur? Et si je crois que oui, est-ce que j'en vois le fruit? Ai-je un amour pour les frères? Cette semence, lorsqu'elle germe, produit automatiquement un amour ardent, sincère et généreux pour les frères et sœurs. pour tous les croyants. Nous aimons ce que Dieu aime et nous haïssons ce que Dieu est. Si nous constatons que notre amour est là, mais peut-être un peu tiède, la parole de Dieu nous exhorte à revenir à lui, à replonger les regards à nouveau dans ce salut tellement glorieux, à laisser la parole de Dieu couler sur nos cœurs qui tendent à retourner à leur état rocailleux, froid, insensible et idolâtre qui était nos cœurs. La marche avec Dieu n'est jamais statique. Soit nous nous approchons de Dieu et nous serons de plus en plus transformés à son image, soit nous délaissons les commandements de sa parole et nous commencerons inévitablement à aimer le péché. L'amour pour sa parole et l'amour pour les frères va de pair. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 9 et 10. Alors, en conclusion, nous sommes privilégiés d'être dans cette nouvelle alliance, dans les derniers jours où l'Esprit de Dieu n'est pas seulement parmi nous, mais en nous, nous transformant, nous sanctifiant. L'Esprit agit, l'Esprit qui agit de sanctification agit, mais en collaboration toujours avec, avec notre désir d'être sanctifié. Nous conduisant dans la vérité. Même les prophètes de l'Ancienne Alliance, inspirés par l'Esprit, auraient désiré voir ce que nous voyons et ce que nous vivons aujourd'hui. Ils annonçaient un salut qu'ils ne pouvaient qu'entrevoir, tandis que nous, nous avons pleinement, nous, l'accomplissement de cette promesse en Christ. Et si nous avons reçu un héritage incorruptible, si Dieu nous a donné son Esprit et que l'Esprit habite en nous, si nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, alors vivons comme des enfants de lumière. Ne retournons pas aux anciennes convoitises passagères de ce monde qui entachent notre conscience, mais marchons avec une crainte respectueuse de Dieu, ancrée dans sa grâce, avec une espérance entière pour le jour de son retour. Attachons-nous à cette semence vivante et éternelle, car tout passe dans ce monde, si nous nous attachons à cette semence divine, si nous la laissons prendre racine en nous profondément, nous porterons toutes sortes de fruits qui glorifieront Dieu et béniront les autres. Soyons un témoignage pour l'Évangile, vivons de cette semence incorruptible et laissons-la transformer nos vies et celles des autres pour l'éternité. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, tu es un Dieu juste, un Dieu saint. Tu nous appelles à être saints parce que tu es saint. Nous avons été créés à ton image. Et le péché est venu nous éloigner de toi. Mais par le Christ Jésus, tu nous as rapprochés de toi, tu nous as connectés à toi. Et maintenant, tu désires que nous vivions nos vies pour la gloire de ton nom, en marchant dans la sainteté, en délaissant les convoitises que nous avions quand nous étions dans l'ignorance, quand nous étions honteux, quand nous n'avions pas d'espérance. Alors pourquoi irions-nous encore dans cet état quand nous n'avions pas d'espérance? Seigneur, nos cœurs, des fois, si lents à croire, nos cœurs qui veulent toujours retourner à leur péché. Seigneur, nous voulons être comme cet homme, déterminé à accomplir quelque chose. Seigneur, nous voulons être déterminés dans notre sanctification. Nous ne voulons pas se laisser aller à gauche ou à droite. Mais nous savons que tu es un Dieu saint. Nous savons que tu es un Dieu qui juge justement, sans exception de personne. Alors, tu seras juste dans ton jugement. Mais merci, notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils, que par sa grâce, nous avons été délivrés du jugement éternel qui s'en vient sur ce monde, perdu, corrompu, rebelle à toi. Ô Seigneur éternel, que par nos bouches, que par nos actions, nous puissions en arracher encore quelques-uns à ce siècle mauvais. Que par ton esprit, Seigneur, tu convainques les cœurs de péché, de justice et de jugement. Ô notre Dieu, viens nous visiter ici à l'Église de la Trinité. Viens nous alarmer si nous sommes sur des voies glissantes, des voies tortueuses. Nous voulons les délaisser, Seigneur. Nous voulons être comme cet arbre planté près des courants d'eau et qui porte du fruit en sa saison. Nous voulons te glorifier en toutes choses, par nos mains, par nos pieds, par nos bouches. Alors, sois glorifié. Merci pour cette parole qui transforme, pour cette parole qui agit encore des milliers d'années plus tard, cette parole qui est éternelle, qui ne passera jamais. Parce que les cieux et la terre vont passer, mais ta parole, Seigneur, demeure éternellement. Merci, notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange, pour toute l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.